4. La vie en Russie. Quelle différence entre cette réunion de famille et celle que décrivait Sophie dans ses souvenirs d'enfance. Les deux jeunes filles ignorantes, aspirant à une vie idéale, étaient remplacées par deux jeunes femmes que l'existence, telle qu'elle se l'était choisie, avait singulièrement développée. Mais si la réalité ne répondait pas à leurs rêves, elle rapportait cependant une expérience de la vie assez riche d'intérêt pour donner lieu à de longues conversations au coin du feu, en hiver, dans le grand salon de damas rouge, le samovar sur la table à thé et les loups au dehors entonnant leur concert famélique autour du parc solitaire. Le monde ne paraissait plus aussi démesurément grand aux deux sœurs. Elles en avaient jugé les proportions. L'une, à Utah, n'aspirait plus à de violentes émotions. Passionnément éprise du mari assis à ses côtés, sur un des grands fauteuils rouges, l'air fatigué et sarcastique, et tout aussi passionnément jalouse, elle n'avait plus rien à désirer au point de vue des agitations de l'âme. L'autre, au contraire, avait uniquement vécu par la pensée jusque-là, mais sa soif de science était complètement satisfaite. Elle se sentait épuisée et incapable de nouvelles fatigues cérébrales. Son temps se passait à lire des romans, à jouer aux cartes, à partager la vie sociale du voisinage, occupation dépourvue de tout intérêt intellectuel. La grande joie de Sophie fut, à cette époque, de constater la transformation morale de son père. Le général était de ceux qui, par la force de l'intelligence et de la réflexion, arrivent à modifier leur caractère et à en développer les bons côtés. La rude épreuve infligée par ses filles avait sensiblement adouci les traits dominants de sa nature, la dureté et le despotisme. Il avait appris à admettre qu'on ne peut imposer sa volonté à la pensée d'autrui, pas même à celle de ses enfants. Aussi supportait-il avec une extrême tolérance les discours subversifs de son gendre le communard et les principes matérialistes de son gendre le savant. Ses souvenirs furent les meilleurs que Sophie conserva de son père. Ils se gravèrent d'autant plus dans son âme que cet hiver fut le dernier de la vie du général. Une maladie de cœur l'emporta subitement. Ce coup fut cruel pour Sophie. Elle avait toujours préféré son père à sa mère, dont la nature aimable mais légère lui était moins sympathique. Son père, de son côté, l'avait aimée avec prédilection. Cette mort la laissa donc tristement isolée. Agnuta pouvait épancher sa douleur avec son mari. Sophie restait seule. Celui qui ne demandait qu'à la consoler avait toujours été repoussé jusque-là. Mais cette situation leur parut plus cruellement illogique que jamais. Le besoin d'affection l'emporta sur les préjugés et leur union véritable fut consacrée dans le calme et le silence de cette maison de deuil. L'hiver suivant, toute la famille se transporta à Pétersbourg, où Sophie devint aussitôt le centre d'une société très distinguée, au point de vue de l'intelligence et de l'activité d'esprit spéciale à certains milieux russes. Les Russes, vraiment éclairés et dénués de préjugés, dépassent, en largeur d'idées et en liberté de jugement, tous les autres peuples de l'Europe. Ils sont les premiers à accepter de nouveaux horizons et joignent à une remarquable vivacité de conception, une foi enthousiaste en leur idéal. Ce n'est pas l'opinion de Sophie seule que je rapporte, mais celle de toutes les personnes qui ont connu certaines sociétés russes. Sophie fut vite admirée et comprise dans un milieu de ce genre, et cette transformation subite de l'existence, après 5 années d'études ardues, privée de la moindre distraction, fut un véritable épanouissement. Ses brillantes qualités se développèrent toutes à la fois, et la joie de vivre la jeta avec ardeur, presque avec ivresse, dans un tourbillon de plaisirs et de fêtes. La littérature tenait une plus grande place que la science parmi ceux qui l'entouraient. Aussi le besoin de sympathie intellectuelle, si puissant en elle, la poussa dès lors dans un courant d'idées littéraires. Elle écrivit, mais sans les signer, des articles de journaux, des critiques théâtrales, des vers, et même une nouvelle qui eut un certain succès, le Privat Docent, description d'une petite ville universitaire allemande. Agnuta, également occupée de travaux littéraires, habitait aussi Pétersbourg avec son mari. Voldemar Kovalevski avait entrepris des traductions et la publication d'ouvrages de sciences populaires entre autres le célèbre livre de Brême, Les oiseaux. La fortune dont Sophie hérita de son père fut insignifiante. Le testament du général était entièrement en faveur de sa femme. Aussi la vie des Kovalevski, installée avec un certain luxe, devint-elle bientôt trop coûteuse. De là l'idée de tenter quelques spéculations que Sophie fut la première à concevoir. Voldemar, personnellement indifférent au luxe, se laissa entraîner par son imagination et les affaires se succédèrent rapidement. Ils commencèrent par des entreprises de maisons construites à Pétersbourg, puis vint un établissement de bains, une orangerie, la fondation d'un journal et une série d'inventions nouvelles. La fortune sembla leur sourire au début, leurs amis leur prédisaient un brillant avenir, et lorsque, en 1878, leur premier et unique enfant vint au monde, elle fut accueillie comme la future héritière d'une grande fortune. Mais dès cette époque, Sophie eut le secret pressentiment d'un malheur prochain. Une de ses amies se rappelle lui avoir entendu dire « le jour où la première pierre de la première maison fut solennellement posée, qu'elle avait fait la nuit précédente un rêve qui troublait toute sa journée. Elle s'était vue, à l'endroit où devait se placer la pierre, entourée d'une grande multitude venue pour assister à la cérémonie. Tout à coup, la foule s'était dispersée et elle avait aperçu son mari luttant corps à corps contre un être diabolique qui le terrassait avec un rire effrayant. Longtemps le souvenir de ce rêve la laissa inquiète et anxieuse. Il devait se réaliser d'une façon terrible. Les spéculations si brillamment commencées échouèrent l'une après l'autre, et Sophie déploya alors la force et l'énergie de son caractère. Elle avait succombé à la tentation vulgaire de faire fortune et d'user de son intelligence et de la fertilité de son esprit dans ce but, mais elle ne pouvait s'attacher avec persistance à une idée de ce genre. Si elle avait souhaité la richesse, c'était pour expérimenter la vie sous tous ses aspects. Sa nature imaginative et passionnée la portait à vouloir tout posséder, tout éprouver. Devant l'insuccès, elle ne songea plus qu'à soutenir son mari et à le consoler. Capable de perdre des millions, sans qu'il lui en coûtât une ride au front ou une nuit d'insomnie, elle vit s'évanouir sans chagrin la fortune rêvée. Il n'en fut pas de même pour Kovalevski. Cet homme dénué de vanité et qui n'avait jamais souhaité la fortune pour lui-même ni pour les avantages qu'elle procure, tenait plus que sa femme à réussir dans la voie où il s'était engagé. Le sentiment de l'échec, de la défaite, l'écrasait. Une première catastrophe fut évitée. Sophie alla trouver les amis qui avaient participé à leurs entreprises, et sans se laisser décourager par les difficultés et les froissements d'amour-propre, elle réussit à obtenir un arrangement dont chacun fut satisfait. La reconnaissance et l'admiration de son mari furent sa récompense, et leur bonheur semblait renaître lorsque l'homme diabolique, au rire sinistre, que Sophie avait vu en rêve, apparut en réalité. C'était une espèce d'aventurier de grande allure avec lequel Kovalevski avait eu des relations d'affaires et qui chercha maintenant à l'entraîner dans de nouvelles et dangereuses spéculations. Sophie fut prise d'une aversion instinctive pour cet homme et avec une singulière clairvoyance ne voulut jamais le souffrir dans sa maison. Elle supplia son mari de se séparer de ce mauvais conseiller, de chasser, comme elle le faisait elle-même, toute préoccupation d'affaires, pour retourner à la science. Elle ne put l'obtenir. Bien que Voldemar eût été nommé professeur de paléontologie à l'université de Moscou vers cette époque, 1880 et 1881, et qu'il eût quitté Pétersbourg avec sa femme, rien ne put le détacher des entreprises commencées. Elles prirent au contraire des proportions de plus en plus considérables et fantastiques. Il parlait d'exploiter une mine de pétrole dans l'intérieur de la Russie, de développer certaines branches importantes de l'industrie nationale et d'y gagner des millions. Et, aveuglé par son nouvel associé, il se refusait à écouter les observations de sa femme. Il finit même par lui retirer sa confiance et lui cacher ses affaires. Rien ne pouvait blesser Sophie plus profondément. Elle avait cherché à rendre son union avec son mari aussi intime, aussi étroite que possible, et s'était consacrée avec une intensité passionnée à ce qui lui paraissait le but principal de sa vie. Les questions capitales devaient, selon elle, primer toutes les autres. Elle accepta encore tous les sacrifices, elle accepta encore tous les sacrifices, usa de tous les moyens pour s'assurer l'amour exclusif, complet de son mari, et le sauver du danger qui le menaçait, mais elle n'admit pas le partage. Une amie de cette époque décrit ainsi les luttes et les travaux qu'elle s'imposa. Sophie, pour rattacher son mari à la science, prit part elle-même à ses études. Elle prépara ses cours avec lui, mit tout en œuvre pour lui rendre la vie agréable et le ramener au calme. Tout fut inutile. Kovalevski n'était plus, je crois, dans un état normal. Ses nerfs surexcités ne pouvaient plus retrouver l'équilibre. L'aventurier, dont le désir dominant était de séparer sa victime d'une femme trop clairvoyante, profita des premiers malentendus pour les grossir. Il laissa supposer à Sophie d'autres motifs que des questions d'affaires à la réserve de son mari. Elle avait lieu, disait-il, d'être jalouse. Touchée à cette corde, s'était éveillée une des passions les plus profondes de cette nature violente. Dès lors, Sophie perdit tout esprit de critique et fut hors d'état de contrôler la vérité de ses insinuations, que plus tard elle sut être mensongère. Elle n'éprouva plus que le besoin absolu de se soustraire à l'humiliation de l'abandon et d'échapper pour sa part à la tentation d'un espionnage dégradant. Incapable de résignation, aussi exigeante en amour qu'elle était indifférente aux choses extérieures de l'existence, elle ne put admettre la vie conjugale quand elle crut avoir perdu l'amour et la confiance de son mari, ni supporter l'idée de le voir marcher à sa perte sans pouvoir l'arrêter. Peut-être n'avait-elle jamais aimé Kovalevski d'un véritable amour, mais elle s'était consacrée à lui, s'était identifiée à ses intérêts, avait voulu se l'attacher par tous les liens d'affection qu'une nature affamée de tendresse, comme la sienne, devait chercher dans ses relations avec son mari, le père de son enfant. Aussi, en s'apercevant qu'il s'éloignait d'elle malgré tout et plaçait un tiers entre eux, cette tendresse un peu artificielle sombra tout à coup. Elle repoussa de son cœur l'image qu'elle y avait placée presque de force et se retrouva seule. Décidée à se suffire à elle-même et à sauvegarder l'avenir de sa fille, elle quitta son pays et sa maison pour reprendre sa vie d'études à l'étranger. 5. Aventure de voyage, un malheur. À peine le train eut-il quitté la station que Sophie, ayant perdu de vue les amis venus pour l'accompagner, donna libre cours à une émotion longtemps contenue. Elle fondit en larmes, pleurant ses courtes années de bonheur, ses illusions de vie intime envolées à jamais, et s'effrayant de la solitude dans laquelle il lui fallait retomber. Sa chambre d'étudiant lui avait suffi jadis. Pourrait-elle s'en contenter maintenant qu'elle avait goûté le bonheur de vivre à son propre foyer, aimée, entourée d'affection? Elle essayait de se consoler en songeant aux études qu'elle allait reprendre, aux travaux qui lui donneraient une célébrité dont l'éclat rejaillirait sur tout son sexe. Mais rien ne la calmait, tout lui paraissait pâle, comparé au bonheur des dernières années. Ses larmes redoublaient, les sanglots la secouaient tout entière. Dans son trouble, elle n'avait pas remarqué dans le wagon la présence d'un monsieur, d'âge moyen, qui la regardait avec sympathie. « Non, je ne puis vous voir pleurer ainsi, » s'écria-t-il enfin. « Je devine que vous voyagez seul pour la première fois. Mais, mon Dieu, vous n'allez pas chez des cannibales. Une jeune fille comme vous trouvera partout des amis et des protecteurs. » Sophie, étonnée, leva la tête, et ses larmes se séchèrent aussitôt. Elle, qui cachait si soigneusement ses peines de cœur à ses amis les plus intimes, venait de se donner en spectacle à un étranger. Elle fut soulagée en remarquant qu'il ne la connaissait pas. Dans le courant de la conversation qui s'engagea entre eux, elle comprit qu'il la prenait pour une petite institutrice, forcée d'aller gagner son pain dans quelque famille étrangère, et l'entretint dans cette idée, contente de garder l'incognito, s'amusant même d'une petite comédie qui lui apportait une distraction. Elle entra sans difficulté dans son rôle, s'identifia à la pauvre petite gouvernante, écouta, les yeux timidement baissés, les conseils et les encouragements de son compagnon de voyage. Telle était en elle la force de l'élément fantaisiste que cette mystification l'amusa, malgré sa profonde et réelle douleur. Sur la proposition de son compagnon de route, elle consentit même à s'arrêter pour y passer 2 jours dans une ville qu'ils traversaient. Ils se séparèrent ensuite sans avoir même échangé leur nom, ni s'être confié leur situation sociale respective. Ce petit épisode caractérise Sophie et son goût pour l'expérimentation. L'étranger lui avait paru sympathique, elle lui avait su gré de la part amicale témoigner à son chagrin, elle se sentait seule, abandonnée. Pourquoi ne pas accepter le rayon de gaieté que le hasard faisait luire sur son chemin? Une autre femme se serait compromise par une aventure de ce genre, mais Sophie, habituée à vivre en camarade avec son mari, trouvait tout simple de passer 2 jours avec un inconnu. Elle savait tracer une ligne de démarcation dans ses relations avec les hommes, à laquelle on ne se méprenait jamais. Des relations plus étranges encore, et plus piquantes, s'établirent entre elle et un jeune homme pendant son séjour à Paris. L'hôtesse chez laquelle Sophie demeurait dans un des faubourgs de Paris put concevoir des doutes en voyant quelqu'un sortir de la chambre de Sophie, parfois à 2 heures du matin, et escalader les murs du jardin voisin. Si l'on ajoute à ce détail que ce même jeune homme passait des journées entières chez Sophie et s'y attardait jusqu'à la nuit, et qu'elle ne voyait personne d'autre, on peut s'expliquer les soupçons de l'hôtesse. Ces relations furent cependant les plus idéalement pures que l'on puisse imaginer. Le jeune homme était polonais, révolutionnaire, poète et mathématicien. Son âme brûlait du même feu que celle de Sophie. Jamais celle-ci n'avait été aussi bien comprise, jamais ses rêves, ses aspirations, ses pensées n'avaient au même degré été partagés. Bien qu'ils fussent presque toujours ensemble, ils trouvaient encore moyen de s'écrire de longues lettres lorsqu'ils se quittaient pour quelques heures. Ils faisaient des vers et commencèrent en collaboration un long roman plein d'exaltation. La même idée les enthousiasmait. L'humanité, selon eux, se divisait par couples. Chaque homme et chaque femme n'étaient que la moitié d'un être, cherchant à rencontrer sur terre son autre moitié, mais ne se complétant ici-bas que par un bonheur très rare. Trop souvent, cette réunion était réservée à une autre existence. Pour eux, l'union était impossible. La vie en avait détruit les conditions essentielles. Sophie n'était pas libre. L'eût-elle été, qu'elle avait déjà appartenu à un autre, et cette idée ne pouvait se concilier avec la pureté dans laquelle vivait le jeune poète en attendant son unique amour. Sophie, de son côté, ne considérait pas ses liens conjugaux comme rompus. Elle écrivait à son mari, lui restait attachée, et tous deux parlaient de se revoir. Au plus fort de cet entraînement exalté, qui faisait oublier à Sophie les dissonances de la vie réelle, un coup terrible vint la frapper. Kovalevski découvrit enfin qu'il était le jouet d'une intrigue infâme et ne put survivre à la pensée d'avoir ruiné sa famille. Ce savant remarquable, cet homme simple et modeste, pour lequel les jouissances de la fortune n'avaient jamais existé, périt victime de spéculations avec lesquelles son caractère et ses principes étaient en opposition absolue. Cette catastrophe fut écrasante pour Sophie. Elle tomba gravement malade d'une fièvre nerveuse dont elle ne se releva que brisée. Le remords d'avoir quitté son mari, au lieu de continuer à le soutenir, la tourmenta avec l'amertume d'un fait irréparable. Une ombre noire s'étendit sur toute sa vie. Dans cette lutte du corps et de l'âme, la fraîcheur de sa jeunesse disparut, son teint perdit sa transparence, et une ride profonde se creusa entre ses 2 sourcils pour ne jamais disparaître. 6. Premier appel de Suède. Pendant son premier séjour à Pétersbourg en 1876, Sophie eut l'occasion de connaître le professeur Mitta Kleffler, et cette nouvelle relation exerça une influence décisive sur son avenir. Le professeur était élève de Weierstrass, et avait entendu parler de Sophie et de ses rares facultés par leur maître commun. Aussi désirait-il vivement faire sa connaissance. Cette fois, Sophie ne fut avertie par aucun pressentiment, mais la visite annoncée l'embarrassa un peu, car elle avait alors abandonné tout travail scientifique. Cependant, tout en causant avec le professeur, elle se reprit d'intérêt pour ses anciennes études, et son visiteur fut stupéfait de la prodigieuse intelligence avec laquelle elle saisissait les questions les plus compliquées et profondément étonnée du contraste bizarre de cette haute intelligence et de l'aspect de jeunesse presque enfantine de Sophie. L'impression emportée par le professeur suédois fut si vive que plusieurs années après, lorsqu'il fut lui-même nommé professeur de mathématiques à l'école supérieure de Stockholm, une de ses premières démarches fut de chercher à obtenir Madame Kowalewski comme Privatdozent. Même avant la mort de son mari, Sophie avait témoigné le désir d'une place de ce genre dans une université, et Mita Gleffler, dont l'intérêt pour la question de l'émancipation des femmes égalait celle qu'il prenait à la nouvelle université, saisit avec empressement l'idée de lui assurer l'éclat du premier enseignement féminin digne de marquer dans la science. En 1881, Sophie écrivit au professeur la lettre suivante relative à ce projet. Juin 1881, Berlin. Je ne vous remercie pas moins de l'intérêt que vous voulez bien prendre à ma nomination à Stockholm et de toutes les démarches que vous faites à ce sujet. En ce qui me concerne, je puis vous assurer que si la place de Privatdozent m'était offerte, je l'accepterais de tout mon cœur. Je n'ai jamais compté sur une autre position que celle-là, et je vous avouerai même que, pour commencer, je serais bien moins gêné et moins timide si l'on ne m'offre que la possibilité d'appliquer mes connaissances à l'enseignement supérieur afin d'ouvrir ainsi aux femmes l'entrée des universités. Elle ne leur est permise jusqu'ici que dans des cas particuliers et comme une grâce spéciale qu'on peut leur retirer tout aussi facilement et arbitrairement, ainsi que cela s'est passé dans plusieurs universités allemandes. Sans être riche, j'ai le moyen de vivre indépendante, la question d'appointement n'entrerait donc pour rien dans ma résolution. Ce que j'ai principalement en vue, c'est de vivre une cause qui m'est chère et de m'assurer en même temps à moi-même la possibilité de me consacrer au travail dans un milieu occupé des mêmes travaux, bonheur qui m'a toujours manqué, qui me manque encore en Russie et dont je n'ai joui jusqu'ici que pendant mon séjour à Berlin. Voilà, cher monsieur, mes sentiments personnels. Cependant, je me crois obligé de vous communiquer encore ce qui suit. Monsieur Weierstrass, d'après ce qu'il sait de l'état des esprits en Suède, croit impossible que l'université de Stockholm admette jamais une femme au nombre des professeurs, et qui plus est, il craint que si vous mettez trop d'insistance à introduire de pareilles innovations, votre position personnelle ne s'en ressente. Ce serait égoïste de ma part de ne pas vous communiquer l'opinion de notre cher maître, et vous pouvez vous imaginer le regret que j'aurais de vous nuire, à vous qui m'avez toujours témoigné tant d'intérêt et d'empressement à me servir, et pour lequel j'éprouve une amitié si sincère. Je crois donc qu'il est plus prudent peut-être de n'entreprendre pour le moment aucune démarche, et en tout cas d'attendre l'achèvement des travaux qui m'occupent pour l'instant. Si je réussis à les terminer comme je l'espère et le désire, ils me seront d'un grand secours pour le but que je me propose. Les événements dramatiques qui se succédèrent depuis cette époque dans la vie de Sophie, sa séparation avec son mari, son roman avec le Polonais, la mort de Kowalewski et la longue maladie qu'elle fit après cette catastrophe, retardèrent les travaux commencés. Elle n'en put annoncer l'achèvement à Mita Gleffler qu'en août 1883 et lui écrivit alors d'Odessa. Le 23 août, j'ai enfin réussi à terminer l'un des deux travaux dont je me suis occupé pendant ces deux dernières années. Mon premier désir, aussitôt que je suis arrivé à un résultat satisfaisant, a été de vous le communiquer. Mais M. Weierstrass, avec sa bonté habituelle, s'est chargé de vous instruire lui-même des résultats de mes recherches, en attendant qu'elles soient exposées de manière à pouvoir être publiées. Je viens de recevoir une lettre de lui qui m'apprend qu'il vous a déjà écrit à ce sujet et que vous, de votre côté, cher monsieur, lui avez répondu en témoignant pour moi votre bienveillance ordinaire et en m'engageant à me rendre aussitôt qu'il me sera possible à Stockholm pour y commencer un cours privatissima. Je ne saurais vous dire, cher monsieur, combien je vous suis reconnaissante pour l'amitié que vous m'avez toujours témoignée et combien je suis heureuse de pouvoir bientôt commencer une carrière qui a toujours été l'objet de mes plus chers désirs. Cependant, je ne crois pas pouvoir vous dissimuler que, sous plus d'un rapport, je me sens encore fort peu préparé au devoir d'un docent, et je commence même à douter quelquefois de moi-même, au point de craindre que vous, cher monsieur, toujours si disposé à me juger avec bienveillance, n'éprouviez quelque désillusion lorsque vous verrez de plus près ce dont je suis capable. Je suis si reconnaissante à l'université de Stockholm, qui, seule de toutes les universités d'Europe, veut bien m'ouvrir ses portes. Je me sens d'avance si disposée à m'attacher à Stockholm et à la Suède comme à un pays natal. J'espère que quand j'y viendrai, ce sera pour y passer de longues années et pour y trouver une seconde patrie. Mais c'est justement pour cela que je ne voudrais y venir que lorsque je sentirai mériter la bonne opinion que vous voulez bien avoir de moi, et lorsque je pourrai espérer y produire une impression favorable. J'ai écrit aujourd'hui même à Weierstrass pour lui demander s'il ne trouve pas prudent que je passe encore 2 ou 3 mois auprès de lui pour me mieux pénétrer de ses idées et pour combler les lacunes qui peuvent encore exister dans mon instruction mathématique. Ces 2 mois à Berlin me seraient extrêmement profitables sous tous les rapports, car d'un côté je pourrais interroger Weierstrass sur certains points de ses théories qui ne me sont pas suffisamment clairs, et d'autre que je me mettrais en rapport avec de jeunes mathématiciens qui terminent leurs études ou commencent leur carrière de docent et avec lesquels je me suis lié pendant mon dernier séjour à Berlin. Je pourrais même m'arranger avec quelques-uns d'entre eux pour nous faire mutuellement des communications mathématiques. J'entreprendrais, par exemple, de leur exposer la théorie de la transformation des fonctions abéliennes qu'ils ne connaissent pas et que j'ai étudiée plus spécialement. Cela me donnerait l'occasion de m'exercer à faire un cours, ce qui m'a manqué jusqu'ici, et j'arriverai alors à Stockholm en janvier, beaucoup plus sûr de moi-même. Ce projet ne fut pas exécuté, car le 11 novembre de la même année, Sophie quittait déjà Pétersbourg pour se rendre à Stockholm par Ango. 7. Arrivée à Stockholm, premières impressions. Ma première entrevue avec Sophie, maintenant surtout qu'elle n'est plus, m'apparaît vivante jusque dans ses moindres détails. Elle arriva un soir par le paquebot de Finlande et mon frère, Mita Gleffler, lui offrit l'hospitalité. Je vins la voir le lendemain matin. Nous étions préparés à nous trouver amis et nous avions tant entendu parler l'une de l'autre que nous désirions également cette rencontre. Peut-être même s'en réjouissait-elle plus que moi, car elle prenait un vif intérêt aux travaux littéraires qui m'occupaient, tandis que, pour ma part, une mathématicienne me semblait une abstraction au-dessus de ma portée. Elle était debout à la fenêtre de la bibliothèque quand j'entrai et feuilletait un livre. Avant même qu'elle vînt à moi, j'avais remarqué un profil sévère et accentué, des cheveux châtains foncés, négligemment relevés en une natte, une taille mince, d'une souplesse élégante, mais en disproportion avec une tête monumentale. La bouche était grande, d'un dessin irrégulier, mais pleine d'expression. Les lèvres fortes et fraîches, les mains petites et fines comme celles d'un enfant, un peu déformées cependant par des veines trop saillantes. Mais les yeux, c'étaient eux qui donnaient à cette physionomie le caractère de haute intelligence si frappant pour chacun. De couleur indécise, changeant du gris au vert et au brun, grand, brillant et à fleur de tête, il regardait avec une intensité qui semblait pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Quoique pénétrants, ils étaient cependant pleins de douceur, de sympathie, et chacun se sentait prêt à révéler le secret de son cœur sous l'influence magnétique de ce regard intelligent et chaud. Le charme de ses yeux était si grand qu'on remarquait à peine leur légère infirmité, une myopie allant jusqu'au strabisme lorsque Sophie était fatiguée. Elle se tourna vivement vers moi et s'avança en me tendant les 2 mains. Son accueil fut cependant un peu contraint. Elle paraissait intimidée et notre première conversation ne roula que sur son voyage en mer qui lui avait donné une rage de dents. Je lui proposai de la mener chez un dentiste. Joli but de promenade en arrivant dans une ville inconnue. Mais Sophie n'était pas de celles qui s'appesantissent sur de légers ennuis. À cette époque, je travaillais à un drame « Comment on fait le bien ?» dont je n'avais pas encore écrit une seule scène. Mais Sophie possédait à un tel point le don de s'attirer la confiance qu'avant d'arriver chez le dentiste, je lui avais raconté en français tout le plan de mon drame avec plus de développement qu'il n'en avait comporté jusque-là. Ce fut le commencement de la grande influence qu'elle exerça depuis sur tout ce que j'écrivis. Sa faculté d'exprimer la sympathie, de s'identifier avec la pensée d'autrui était si remarquable, son admiration si chaude et si enthousiaste, sa critique si mordante, que pour une nature réceptive comme la mienne, le travail devint impossible sans son approbation. Désapprouvait-elle ce que j'écrivais, je recommençais jusqu'à ce qu'elle fût satisfaite. C'était le germe de notre collaboration future. Jamais, assurait-elle, je n'aurais écrit les « Vraies femmes » et « En guerre avec la société » si ces deux œuvres, qu'elle n'aimait pas, n'eussent été antérieures à son arrivée en Suède. Au reste, sa critique lui ressemblait et ses jugements littéraires se ressentaient de son tempérament subjectif. Elle acceptait volontiers une œuvre médiocre si elle y trouvait des idées conformes aux siennes. Mais l'auteur venait-il à heurter ses sentiments, son œuvre perdait pour elle toute valeur. Malgré ses préventions, peu d'esprits ont été plus libres que le sien, plus affranchis de préjugés et de conventions vulgaires. L'étendue et la variété de ses connaissances et sa haute culture intellectuelle la plaçaient au-dessus des idées étroites dont tant de femmes sont les esclaves. Ses jugements et ses critiques n'étaient limités que par sa forte individualité, dont les sympathies ou les antipathies défiaient toute logique ou toute discussion. Notre liaison ne fit pas, tout d'abord, de grands progrès. Sophie fut obligée de faire une assez longue absence peu de mois après son arrivée. Elle avait eu le temps, cependant, d'apprendre assez de suédois pour lire toutes mes œuvres, car, aussitôt débarquée, elle s'était mise à prendre des leçons et ne fit autre chose pendant les premières semaines que de travailler le suédois du matin au soir. Mon frère ayant voulu donner une soirée pour lui présenter ses amis du monde universitaire, elle l'arrêta en disant « Attendez 15 jours pour que je puisse parler suédois ». Nous trouvâmes le mot audacieux, mais elle tint parole et parlait assez pour se faire comprendre au bout de 15 jours. Dès le premier hiver, elle apprit à connaître toute notre littérature moderne et lut avec ravissement Fridtjofs saga. Cette étonnante facilité avait des bornes. Elle-même prétendait ne pas posséder le don des langues et ne les avoir jamais apprises que par nécessité ou amour-propre. Malgré la rapidité de ses progrès au début, elle n'arrivait jamais à rien perfectionner et restait au même point, oubliant la dernière langue apprise avant d'en parler une nouvelle. Venue très jeune en Allemagne, elle parlait néanmoins fort mal l'allemand et ses amis de Berlin riaient des mots bizarres et drôles qu'elle inventait au besoin, car jamais elle ne se laissait arrêter par un aussi mince détail que l'absence du mot juste. Quelque peu maîtresse qu'elle fût d'une langue, elle réussissait toujours à la parler avec rapidité et à donner un tour tout personnel à sa conversation. En revanche, aussitôt qu'elle eut appris le suédois, elle oublia l'allemand, et quand elle revenait en Suède, après quelques mois d'absence, son suédois devenait raboteux. Sa façon de s'exprimer dépendait d'ailleurs, comme tout le reste, de sa disposition d'esprit du moment. Triste ou fatiguée, elle ne trouvait plus ses mots. Bien disposée, elle parlait avec finesse et facilité. La langue étrangère qu'elle possédait le mieux était le français, bien qu'elle ne fût jamais arrivée à l'écrire correctement. En Russie, on reprochait à son style de subir une influence étrangère, mais en Suède, elle se plaignait à ses amis de ne pouvoir leur parler russe. « Jamais, disait-elle, je ne puis vous exprimer les nuances délicates de ma pensée. Il faut toujours me contenter d'une circonlocution ou d'un à peu près. Aussi, quand je rentre en Russie, me semble-t-il sortir d'une espèce de captivité où mes meilleures pensées sont prisonnières. Vous ne sauriez croire combien on souffre d'être forcé de ne parler qu'une langue étrangère à ceux qu'on aime. C'est comme un masque qu'on porte toujours sur la figure. En février 1884, je fis un voyage à Londres et ne revis Sophie qu'en septembre de la même année. Elle ne m'écrivit qu'une fois et décrit ainsi dans sa lettre son premier hiver à Stockholm. La lettre ne porte pas de date, mais a dû être écrite au commencement d'avril. Que vous dirais-je de notre vie de Stockholm? Si elle n'a pas été très inhaltsreich, substantielle, profonde, du moins a-t-elle été assez fatigante et assez animée tous ces derniers temps. Des soupers, des dîners, des soirées se sont succédés de telle sorte qu'il me devenait difficile d'y suffire tout en préparant mes cours. Aujourd'hui, les cours se trouvent interrompus pour 15 jours à cause des fêtes de Pâques et je me réjouis comme une pensionnaire de ce petit congé. Le 1er mai n'est plus bien loin, et j'espère alors partir pour Berlin en passant par Pétersbourg. Quant à mes projets pour l'hiver prochain, ils sont encore indécis, car ils ne dépendent naturellement pas de moi. Comme bien vous pensez, on ne parle ici que de vous. Chacun demande de vos nouvelles, vos lettres sont lues, commentées, et font une véritable sensation. Les dames qui donnent le ton s'imaginent toujours souffrir d'un manque de sujets d'entretien intéressants ou palpitants. C'est donc une véritable charité que de leur en fournir. Je tremble et me réjouis à l'avance de l'effet que produira votre pièce lorsqu'elle sera jouée en automne. Sophie partit en avril pour la Russie. Elle écrit de là à Mita Kleffler, 29 avril 1884. Il me semble qu'il y a déjà un siècle que je suis parti de Stockholm. Jamais je ne saurais vous dire et vous témoigner toute la reconnaissance et l'amitié que je vous porte. Il me semble avoir trouvé en Suède une nouvelle patrie, une nouvelle famille, au moment de ma vie où j'en avais le plus besoin. Les conférences de Sophie eurent, ainsi que je l'ai déjà dit, un caractère strictement privé pendant le premier hiver et furent faites en allemand. Cependant, leur effet fut si grand que Mita Kleffler parvint à réunir l'adhésion d'un nombre suffisant d'auditeurs pour assurer à Sophie une place officielle de professeur pendant une durée de 5 ans. Un traitement de 2000 couronnes lui fut alloué par l'école supérieure et vint se joindre aux 2000 couronnes assurées par ses auditeurs. Elle eut ainsi des appointements fixes de 4000 couronnes par an. Sa situation de fortune ne lui permettait plus de travailler sans rétribution, ainsi qu'elle l'avait d'abord généreusement offert, mais la question économique n'était pas la seule difficulté qu'eût soulevée sa nomination. Il s'agissait surtout de vaincre une opposition conservatrice qui s'élevait naturellement contre la nomination d'une femme au poste de professeur, chose dont aucune université n'avait donné l'exemple. Il n'eût cependant pas été impossible de nommer Sophie professeur à vie, mais Mita Kleffler, en présence des difficultés qu'il rencontra, préféra remettre ses démarches à une époque plus favorable. Il obtint effectivement cette nomination au bout des 5 premières années, mais, hélas, cette vie ne devait plus durer qu'un an. Le 1er juillet 1884, Mita Kleffler eut donc la joie de télégraphier à Sophie, alors à Berlin, qu'elle était nommée professeure. Elle répondit le même jour par le billet suivant. Berlin, 1er juillet 1884. Je n'ai pas besoin de vous dire combien votre télégramme me comble de joie. À présent, je puis bien vous avouer que, jusqu'au dernier moment, je n'ai pas cru fermement que la chose se ferait. Je craignais qu'il ne surgît quelques difficultés imprévues, comme il arrive si souvent dans la vie, et que nos plans ne finissent par crouler. Je suis bien persuadé que c'est grâce à vous, à votre persévérance et à votre énergie, que nous avons pu atteindre notre but. Ce que je souhaite maintenant de tout cœur, c'est d'avoir la force et le talent nécessaires pour remplir ma tâche et vous seconder dignement. Je crois maintenant à l'avenir et serai si heureuse de travailler avec vous. Quel bonheur que nous nous soyons rencontrés dans la vie. Weierstrass a parlé à plusieurs personnes du ministère relativement à mon désir de suivre ici des cours à l'université. Il y a quelque espoir que la chose s'arrange, mais pas encore cet été, car le recteur actuel est un ennemi terrible de la question des femmes. J'espère que cela pourra se faire en décembre, quand je reviendrai pour les vacances de Noël. Ainsi, tandis qu'à Stockholm, Madame Kowalewski était nommée professeure à l'école supérieure, elle n'avait pas le droit, parce qu'elle était femme, d'assister à un cours de l'université dans la capitale de l'Allemagne. Le peu de stabilité apparente de sa nouvelle situation eut vraisemblablement troublé tout autre que Sophie, mais elle ne s'inquiétait jamais de l'avenir. Le moment présent lui paraissait-il satisfaisant, elle n'en demandait pas davantage. Elle aurait même sacrifié les plans d'avenir les plus brillants pour rendre le présent plus complètement heureux. Avant d'aller à Berlin, Sophie avait été à Moscou afin d'y voir sa fille, confiée à une amie. Elle écrivit de là à Mita Kleffler une lettre qui expliquera sa façon de comprendre ses devoirs de mère et de résoudre les conflits qui résultaient de sa double qualité de mère et de fonctionnaire de femmes et de chefs de famille. Moscou, 3 juin 1884. J'ai reçu ici une longue lettre de T qui m'engage beaucoup à amener ma petite Sonia à Stockholm. Mais malgré toutes les raisons qui me feraient désirer avoir ma fille auprès de moi, je suis presque décidé à la laisser encore ici pour un hiver. Je ne crois pas qu'il soit de l'intérêt de l'enfant de la reprendre d'un endroit où elle est si bien pour la mener avec moi au commencement de l'automne à Stockholm, où rien ne serait organisé pour la recevoir et où moi-même je serais forcé de consacrer tout mon temps et toute mon énergie à mes nouveaux devoirs. T allègue, entre autres raisons, que beaucoup de personnes m'accuseront d'indifférence pour ma fille. C'est possible, mais cette raison n'en prend pas plus de valeur à mes yeux. Je suis prête à me soumettre au jugement du tribunal des dames de Stockholm en tout ce qui concerne les petites choses de la vie, mais lorsqu'il s'agit de questions graves et que mon bien-être, et surtout celui de la petite, est en jeu, ce serait une impardonnable faiblesse de me laisser influencer par l'ombre du désir de paraître une bonne mère aux yeux du poulailler de Stockholm. À son retour en Suède en septembre, Sophie s'établit pour quelques semaines à Södertälje pour y achever sans interruption un important travail sur la réfraction de la lumière dans les milieux cristallins. Mitta Leffler et un jeune mathématicien allemand dont Sophie avait fait la connaissance à Berlin pendant l'été demeurait auprès d'elle, ce dernier pour l'aider dans la rédaction allemande de son travail. Dès la première visite que je lui fis après son retour, je fus frappé de la trouver rajeunie et embellie. Je m'expliquai d'abord ce changement par une transformation de toilette, car elle avait quitté le deuil qu'elle détestait et qui ne lui allait pas, et portait une robe d'été bleu de ciel. Son teint en semblait éclairci. Sa belle chevelure était coiffée en boucles. Mais le changement n'était pas seulement extérieur. La mélancolie qui pesait sur elle à son premier séjour avait disparu, pour faire place au côté opposé de sa nature, une gaieté exubérante dont je fus frappé pour la première fois. Elle fut ainsi, à certaines périodes de sa vie, étincelante d'esprit, pétillante de vivacité, s'amusant à accabler ses amis des plaisanteries les plus drôles et les plus mordantes, et des paradoxes les plus hardis. Si on n'avait pas la répartie prompte, mieux valait se taire et recevoir en silence cette grêle de saillie, car elle ne laissait guère le temps de la réplique. Au moment où je la revis, elle préparait ses cours pour le terme prochain et les répétait au fur et à mesure au jeune mathématicien qu'elle avait plaisamment surnommé son lapin d'expérimentation. En son absence, l'emploi revenait à Mitta Leffler. Cette belle humeur se prolongea tout l'automne. Sophie prit part à la vie mondaine et y eut le plus grand succès. Le côté satirique de sa nature, son profond mépris pour toutes les médiocrités, car elle était aristocrate au suprême degré lorsqu'il s'agissait d'esprit et de talent, ne l'empêchait pas d'éprouver la sympathie particulière aux romanciers pour les moindres conflits de la vie, quelque insignifiants qu'ils fussent. Aussi s'intéressait-elle à tout ce qui agitait le petit monde autour d'elle, aux préoccupations du ménage, aux questions de toilette, à tout ce qu'on venait de lui raconter. De là ce jugement si souvent répété, Madame Kowalewski est simple et sans prétention comme une pensionnaire. Elle ne se croit nullement supérieure aux autres femmes. C'était faux. Ainsi que je l'ai déjà dit, elle considérait peu de personnes comme ses égales. La franche cordialité de ses manières n'était qu'une apparence, mais une certaine souplesse d'esprit, le désir de plaire et l'intérêt psychologique du romancier pour tout ce qui est humain lui donnaient cet abord sympathique si attrayant. Rarement, du reste, son tour d'esprit sarcastique perçait à l'égard de ceux qu'elle traitait en inférieurs, elle se contentait de les dédaigner. En revanche, avec ses égaux, ses sarcasmes avaient beau jeu. Au bout de peu de temps, elle fut lasse de la société de Stockholm et prétendit en connaître tous les habitants par cœur. Pour son malheur, elle ne pouvait longtemps être satisfaite ni à Stockholm ni ailleurs. La vie devait lui fournir sans cesse des événements dramatiques, des raffinements intellectuels nouveaux, et la grise monotonie de l'existence quotidienne lui semblait haïssable. Tout ce qui rentrait dans le cadre des vertus bourgeoises lui faisait horreur. Ce trait de caractère venait, disait-elle, de sa grand-mère, une bohémienne, dont le mariage avec son grand-père avait fait perdre à celui-ci le titre de prince héréditaire dans la famille. Mais ce n'était pas un simple trait de caractère. Ce besoin de stimulante tenait à la nature même de son esprit, aussi fortement réceptif que productif. Aussi, ses travaux scientifiques sont-ils principalement le développement des idées de son illustre maître, et c'est aussi pourquoi elle éprouvait l'absolue nécessité d'un continuel échange d'idées avec ceux qui pouvaient prendre part à ses travaux littéraires. La vie d'une petite ville telle que Stockholm devait nécessairement paraître stagnante à une intelligence comme la sienne. Une des grandes capitales de l'Europe pouvait seule lui fournir le mouvement intellectuel dont elle avait besoin. Elle passa à Berlin les fêtes de Noël 1884. C'est en revenant de là qu'elle dit ce mot si blessant pour ses amis et qu'elle répétait toujours en rentrant en Suède « La plus belle ligne de chemin de fer que je connaisse est celle de Stockholm à Malmö, et la plus laide, la plus ennuyeuse, la plus fatigante est celle de Malmö à Stockholm. » Mon cœur se serre à la pensée de tous ces voyages qu'elle fit avec une amertume croissante jusqu'au dernier, qui précéda de si peu sa mort prématurée. Une lettre à mon frère, adressée de Berlin, témoigne déjà d'un retour à la mélancolie, et cependant ses amis assurent ne l'avoir jamais vu plus rempli d'entrain que pendant ce séjour. Pour réparer le temps perdu dans sa première jeunesse, elle prétendit apprendre à danser et à patiner. Mais pour ne pas faire ses débuts en public, elle s'exerça dans le jardin d'un de ses amis et admirateurs, qui organisa aussi pour elle des leçons de danse particulières, avec quelques admirateurs pour cavaliers. Elle passait ainsi d'un plaisir à l'autre et fut partout admirée et fêtée. Cette heureuse disposition d'esprit ne fut pas de longue durée. Un mois après, elle était remplacée par une disposition contraire, causée par de mauvaises nouvelles de sa sœur, un peu aussi par une petite affaire de cœur, dont l'issue, comme presque toujours, ne fut pas heureuse. Cet incident avait produit d'abord la joie exubérante dont nous avions été témoins, et fut très vite suivi d'un profond découragement. Au fond, je suis d'humeur fort triste, car je viens de recevoir de très mauvaises nouvelles de ma sœur. Sa maladie fait d'épouvantables progrès. C'est la vue qui souffre maintenant. Elle ne peut plus ni lire ni écrire. La cause est toujours la même. Le cœur fonctionne mal, la circulation du sang devient mauvaise et amène des paralysies partielles. Je tremble à la pensée de la terrible perte qui me menace dans un avenir peut-être très prochain. Que la vie est donc une chose horrible et qu'il est bête de continuer à vivre. C'est précisément aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance. J'ai 31 ans et il est terrible de penser qu'il m'en reste peut-être encore autant à vivre. Combien cela s'arrange mieux dans les drames et les romans. À peine une personne y découvre-t-elle que la vie n'a plus rien d'agréable à lui offrir, que quelqu'un ou quelque chose lui facilite aussitôt le passage dans l'au-delà. La réalité est bien inférieure sous ce rapport. On parle beaucoup des perfectionnements de l'organisme que les êtres vivants ont peu à peu développés en eux-mêmes par voie de sélection. Selon moi, le perfectionnement le plus désirable serait la faculté de mourir vite et facilement. Sous ce rapport, l'homme a rétrogradé. Les insectes et les animaux inférieurs ne peuvent se décider à mourir. Ce qu'un articulé peut souffrir sans cesser d'exister est inouï. Mais plus l'on s'élève dans l'échelle des êtres, plus le passage devient rapide et facile. Pour un oiseau, un animal sauvage, un lion, un tigre, la maladie est presque toujours mortelle. Ils jouissent pleinement de la vie ou meurent. Pas de souffrance. Mais l'homme s'est rapproché de l'insecte sous ce rapport, et bien des personnes de ma connaissance me font involontairement penser à des insectes dont les ailes leur ont été arrachées, plusieurs articulations écrasées, les pattes brisées, et qui ne se décident pourtant pas à mourir. Et un peu plus loin, j'ai reçu de votre sœur, comme cadeau de Noël, un article de Strindberg dans lequel il prouve aussi clairement que 2 et 2 font 4 combien une monstruosité, telle qu'un professeur de mathématiques féminin, est fâcheuse, inutile et désagréable. Je trouve qu'il a raison dans le fond. Le seul point contre lequel je proteste, c'est qu'il y ait en Suède tant de mathématiciens hommes qui me soient supérieurs et que l'on ne m'ait nommé que par pure galanterie. 8. Sport et autres divertissements. Dans la foule des patineurs à Nipravikan et Skepsholmen, on voyait presque journellement, l'hiver suivant, une petite dame au regard myope, vêtue d'un paletot fourré, très serré à la taille, les mains cachées dans un manchon, s'avançant prudemment et à petits pas incertains sur la glace, à côté d'un grand monsieur à lunettes et d'une grande dame mince qui ne tenait pas non plus bien solidement sur ses patins. Tout en glissant à pas inégaux, ils causaient vivement ensemble. Le monsieur traçait parfois sur la glace des figures mathématiques, pas en patinant toutefois, car il n'était pas de cette force, mais avec sa canne, et la petite dame s'arrêtait et regardait attentivement. Tous deux revenaient en patinant de l'université et discutaient chaudement quelques questions à propos du cours de l'un d'entre eux. De temps en temps, la petite dame poussait un léger cri, suppliant de ne plus parler de mathématiques sur patin parce qu'elle en perdait l'équilibre. D'autres fois, c'était avec la grande dame qu'elle échangeait des observations psychologiques et des plans de drames ou de romans. Elles se disputaient la palme pour le noble sport qui les absorbait, et quelque bien disposées qu'elles fussent à reconnaître leurs mérites respectifs sur d'autres points, elles n'étaient jamais d'accord sur ce chapitre-là. Ceux qui rencontrèrent cet hiver Madame Kovalevski dans le monde la crurent une patineuse de premier ordre, capable de remporter facilement le grand prix. Son intérêt pour ce sport était si vif qu'elle semblait plus fière de ses moindres succès sur la glace que des travaux scientifiques auxquels elle devait une renommée européenne. Jamais, du reste, elle n'était plus contente d'elle-même que lorsqu'elle croyait réussir une chose au-dessus de ses forces, et pour laquelle les dispositions naturelles lui faisaient complètement défaut. La petite dame se montra aussi cet hiver au manège, suivie de sa grande compagne, car il était convenu qu'elle ne se quitterait pas dans leurs entreprises. La célèbre Madame Kovalevski attirait naturellement l'attention partout où elle allait, mais une petite fille de 12 ans ne se serait pas montrée plus enfant à la leçon d'équitation. Son goût pour les exercices du corps était en désaccord complet avec ses talents naturels. À peine montée sur un cheval, qu'elle avait soin de demander aussi doux et tranquille que possible, ce qu'on ne lui refusait jamais, elle était prise de peur et perdait toute présence d'esprit. Le moindre mouvement du cheval lui semblait suspect et lui faisait pousser des cris. La leçon finie, elle expliquait ses frayeurs en les mettant sur le compte de la bête qui était ombrageuse ou qui avait le pas trop rude ou encore de la selle qui était détestable. En réalité, elle ne pouvait supporter le trot plus de 10 minutes. Et si l'allure de son cheval augmentait de vitesse, elle criait, épouvantée, en mauvais suédois, « Cher monsieur l'écuyer, arrêtez-le, arrêtez-le !» Les plaisanteries de ses amis sur ce chapitre étaient acceptées le plus aimablement du monde, mais à l'entendre parler avec des étrangers, on aurait pu la croire une écuyère accomplie, montant les bêtes les plus furieuses au grand galop. Ce n'était pas une fanfaronnade. Elle croyait sérieusement ce qu'elle disait, ou plutôt s'imaginait de bonne foi pouvoir déployer cette belle énergie à la prochaine leçon. Elle se rendait au manège avec des intentions très braves, proposait de lointaines excursions équestres, mais à peine à cheval était reprise de la même terreur. C'était, assurait-elle, une espèce de nervosité qui la rendait particulièrement sensible au moindre son, et le bruit du piétinement des chevaux lui faisait perdre l'équilibre. Ses amis ne pouvaient alors s'empêcher de lui demander quel était le son qui la faisait sauter par-dessus toutes les barrières, toutes les fois qu'elle rencontrait une vache inoffensive, paissant dans une prairie, ou un chien disposé à la flairer en passant. Elle-même décrit parfaitement cette espèce de lâcheté dans un des personnages, du reste très remarquable, de son dernier roman « Vera Vorontsov ». Dans le monde des savants fréquentés par W, on ne l'aurait jamais soupçonné de poltronnerie. Ses collègues vivaient au contraire dans la crainte qu'il ne les mît dans l'embarras par quelque excès de hardiesse. Il se considérait aussi lui-même, au fond du cœur, comme un homme très brave. Dans ses rêves intimes, de ce que l'on n'avoue pas à son meilleur ami, il se voyait en imagination dans les situations les plus dramatiques. Et plus d'une fois, dans sa chambre de travail silencieuse, il défendit rudement quelques barricades attaquées. Mais en dépit de ce courage reconnu, W. conservait un profond respect pour les chiens de village et avait soin de ne pas faire connaissance avec les taureaux. Quant à Sophie, elle exagérait peut-être quelquefois ses frayeurs par une inconsciente coquetterie. Elle avait la qualité féminine, généralement appréciée des hommes, de trouver du plaisir à se laisser protéger, car elle joignait à une énergie masculine et à un caractère parfois inflexible l'inexpérience toute féminine que nous avons déjà signalée. Elle avait besoin d'un appui, d'un ami, pour l'aider dans toutes ses petites difficultés et la lui aplanir, et presque toujours elle le trouvait, sinon elle se sentait malheureuse et abandonnée comme une enfant. Elle ne savait ni acheter une robe toute seule, ni ranger ses affaires, ni même trouver son chemin dans une ville. À Stockholm, elle ne connut jamais que les rues où elle passait pour se rendre à l'université ou chez ses amis les plus intimes. Jamais elle ne sut gouverner ses intérêts, tenir sa maison, s'occuper de son enfant, qu'elle laissait toujours à la garde d'autrui. En un mot, la plupart des petits soucis de la vie lui étaient un pesant fardeau. Mais toujours, et comme à point nommé, elle trouvait quelque ami dévoué qui se consacrait à ses intérêts et sur lequel la charge en retombait. À chaque station de chemin de fer où, dans ses nombreux voyages, elle avait à s'arrêter, quelqu'un l'attendait, venu à sa rencontre pour lui retenir une chambre, l'accompagner à l'hôtel et lui rendre les petits services nécessaires. Et elle était si contente, si reconnaissante de se sentir protégée, de dépendre d'un autre pour ses petites choses, qu'elle exagérait parfois dans ce but, ainsi que je l'ai dit, ses appréhensions et son inexpérience. Quant à une dépendance, dans le sens sérieux du mot, elle en fut toujours incapable. Dans une lettre en allemand, adressée à cet ami de Berlin qui lui avait appris à danser et à patiner, Sophie décrit ainsi sa vie à Stockholm pendant l'hiver de 1885. Stockholm, avril 1885. Cher Monsieur Hansmann, je me sens très coupable de n'avoir pas encore répondu à votre amicale lettre. Mon excuse est dans la quantité d'occupations variées qui ont absorbé mon temps pendant les deux derniers mois. Je vais vous raconter tout ce que j'ai fait. Premièrement, d'abord j'ai naturellement dû penser à mes 3 cours par semaine en suédois. Je fais mes cours sur l'introduction algébrique à la théorie abélienne, et partout en Allemagne, ces cours passent pour les plus difficiles. J'ai beaucoup d'auditeurs, et les ai presque tous conservés à l'exception de 2 ou 3. Deuxièmement, j'ai écrit pendant ce temps une petite dissertation mathématique que je compte envoyer à Weierstrass avec prière de la faire publier dans le journal de Borchardt. Troisièmement, nous avons commencé avec Mita Gleffler un grand travail de mathématiques dont nous nous promettons beaucoup de plaisir et de succès. C'est encore un secret et vous ne devez en parler à personne. Quatrièmement, j'ai fait la connaissance d'un très charmant homme arrivé depuis peu d'Amérique et qui est maintenant rédacteur d'un des premiers journaux suédois. Il m'a persuadé d'écrire aussi pour son journal, et comme vous l'avez déjà remarqué, je ne puis jamais regarder mes amis faire une chose sans vouloir aussitôt faire comme eux. J'ai donc écrit une série de petits articles pour lui. Pour le moment, il n'y en a qu'un de près, tiré de mes souvenirs personnels. Je vous l'enverrai puisque vous comprenez si bien le suédois. Cinquièmement, last but not least, le croiriez-vous, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, je suis devenue une excellente patineuse. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai patiné, il est vrai, presque chaque jour. Je regrette que vous n'ayez pu voir comme je patinais bien vers la fin. À chaque nouveau progrès, j'ai pensé à vous. Maintenant, je patine à reculons très bien, mais encore mieux et avec plus de sûreté en avant. Toutes mes connaissances s'étonnent ici de la facilité avec laquelle j'ai appris cet art difficile. Pour me consoler de la disparition de la glace, je me suis mise à monter à cheval avec rage en société de Madame Edgren et des autres dames. Maintenant que nous allons avoir quelques semaines de liberté pour Pâques, je veux au moins monter 1 heure par jour. Cela m'amuse aussi beaucoup. Je ne sais même ce que je préfère, si c'est de monter à cheval ou de patiner. Là ne s'arrêtent pas mes frivolités. Nous aurons le 15 avril une grande fête populaire, quelque chose de très suédois, une sorte de bazar. Nous serons 100 dames, costumées de diverses manières, et nous vendrons toute espèce de choses au profit d'un musée ethnographique populaire. Naturellement, je serai une bohémienne, affreuse à voir, et je me suis adjoint 5 jeunes femmes qui partageront mon sort. Nous formerons un tabor, Nous aurons une tente, un samovar russe, et nous servirons du thé avec de jeunes bohémiens pour nous aider. Qu'allez-vous dire, cher monsieur Hansmann, de ma frivolité? Ce soir, j'ai une grande réunion dans mon petit appartement, ce sera la première depuis mon arrivée à Stockholm. Au printemps de cette année, le bruit courut que Sophie serait nommée professeure de mécanique par suite de la grave maladie du professeur Holmgren. Elle écrit à ce sujet à Mita Gleffler, qui se trouvait éloignée de Stockholm. Stockholm, 3 juin 1885. J'ai été chez Lindhagen, qui m'a dit que la direction était unanimement d'avis de me faire remplacer Holmgren, mais qu'on ne voulait pas le dire officiellement, dans la crainte d'une impression fâcheuse pour Holmgren, qui est très malade, mais ne se doute pas de la gravité du mal. J'ai répondu à Lindhagen que je trouvais la chose très juste et me contentais parfaitement de savoir que la direction me considérait comme pouvant remplacer Holmgren dans le cas où celui-ci ne serait pas capable de reprendre son cours en automne. Si, contrairement à nos suppositions, Holmgren guérissait, j'en serais si heureuse que je ne regretterais pas mon travail perdu. Je me réjouis infiniment, mon cher ami, de la bonne tournure qu'ont prise les choses, et je vais mettre tous mes soins maintenant à rendre mes cours aussi bons que possible. Les histoires morales sont toujours bien ennuyeuses dans les livres, mais quand elles se rencontrent dans la réalité, elles sont édifiantes et encourageantes. Je suis par conséquent doublement contente que ma maxime « pas trop de zèle » ait été brillamment réfutée. J'espère aussi que vous n'aurez plus l'occasion de me reprocher de me décourager trop facilement. D'ailleurs, cher ami, vous ne devriez jamais oublier que je suis russe. Quand une Suédoise est fatiguée ou de mauvaise humeur, elle boude, se tait, et la mauvaise humeur rentrée tourne parfois au mal chronique. Une Russe, au contraire, se plaint et gémit si fort qu'au point de vue moral, l'effet de ses gémissements ressemble à celui du tilleul pour un rhume. Au reste, il faut que je vous dise que je ne gémis et me plains que lorsque j'ai un peu mal. Quand je souffre beaucoup, je me tais aussi, et personne ne peut remarquer alors combien je suis désespéré. Quant à mes reproches sur votre optimisme, pour rien au monde je ne voudrais vous en corriger, ce défaut-là vous va trop bien. La plus belle preuve que vous m'en donniez est la bonne opinion que vous avez toujours eue de moi. Vous ne sauriez croire combien peu j'ai envie de vous corriger. Peu après, Sophie partit pour la Russie, où elle passa l'été, en partie à Pétersbourg avec sa sœur malade, et en partie à Moscou, auprès de son ami et de sa petite fille. Je cite quelques lettres, écrites à cette époque. Elles ne contiennent rien de très saillant, car elle n'aimait pas à écrire, et notre correspondance n'a jamais été très animée. Mais elles contiennent cependant des fragments de l'histoire de sa vie, et sont quelquefois, sous leur forme condensée, très caractéristiques de sa disposition d'esprit du moment. Elle contribue donc, sous tous les rapports, à la dépeindre. J'étais en Suisse avec mon frère, et l'avais engagé à venir nous y rejoindre, lorsque je reçus la lettre suivante. « Ma bien chère Anne-Charlotte, je viens de recevoir ton amicale lettre. Tu ne saurais t'imaginer le grand plaisir que j'aurais à me mettre aussitôt en route pour vous rejoindre, ton frère et toi, en Suisse, pour escalader avec vous les pics les plus élevés des Alpes. J'ai l'imagination assez vive pour me représenter combien ce serait amusant et les joyeuses semaines que nous pourrions passer ensemble. Malheureusement, je suis retenu ici par toutes sortes de raisons, plus sottes et plus ennuyeuses les unes que les autres. D'abord et avant tout, j'ai promis de rester ici jusqu'au 1er août, et quoiqu'en principe je sois d'avis que l'homme est maître de sa parole, les vieux préjugés sont encore si forts en moi que je n'ose mettre mes théories en pratique, et au lieu d'être le maître, je suis l'esclave de ma parole. Du reste, il y a une foule de circonstances qui me retiennent. Ton frère, qui au fond me connaît et me juge très bien, quoiqu'il ne faille pas le lui dire pour ne pas flatter sa vanité, a souvent dit que j'étais très impressionnable et que les devoirs et les influences du moment dirigeaient seuls ma conduite. À Stockholm, où je passe pour le défenseur de l'émancipation des femmes, je finis par croire que mon devoir le plus strict et le plus sérieux est de soigner et de cultiver mon génie. Mais ici, je dois humblement l'avouer, on ne me présente aux nouvelles connaissances qu'en ma qualité de « maman de Foufi ». Et tu ne saurais imaginer l'influence écrasante que cela exerce sur ma vanité et les vertus féminines dont tu ne me croirais jamais capable que cela fait pousser en moi comme des champignons. Ajoute-y une chaleur qui fait fondre mon cerveau, et tu pourras te représenter de quoi j'ai l'air en ce moment. En somme, le résultat de toutes les petites puissances et de toutes les petites influences qui règnent sur ta pauvre amie est de me retenir à Moscou jusqu'au 15 août. La seule chose que je puisse espérer est de vous rejoindre en Normandie pour aller de là avec ton frère à Aberdeen. Écris-moi bien vite, chère bonne Anne-Charlotte, que tu es heureuse et combien je t'envie. Tu ne saurais le croire. Écris du moins, je ferai mon possible pour te rejoindre en Normandie. Bien à toi, Sonia. Comme d'habitude, sa lettre n'avait pas de date. Peu après, elle écrivit à mon frère, « Cher monsieur, je viens de recevoir votre aimable lettre numéro 8. Je me hâte de vous répondre, bien que je n'ai absolument rien d'intéressant à vous dire. Notre vie est monotone à ce point que j'en perds non seulement la faculté de travailler, mais encore celle de me soucier de quelque chose. J'ai le sentiment que si cela devait durer longtemps, je serais métamorphosé en plante. C'est bien curieux, mais moins on a à faire, moins on est capable de travailler, du moins en suis-je là. J'ai positivement besoin d'un stimulant extérieur pour me mettre à l'ouvrage. Ici, je ne fais absolument rien. Je reste assise tout le long du jour, une broderie à la main, sans l'ombre d'une idée dans la tête. La chaleur est devenue suffocante. Après le froid et la pluie que nous avions au commencement de l'été, est venu, subitement et sérieusement, un véritable été russe. On cuirait un œuf à l'ombre. Elle fait encore à son ami, M. Hanspan, de Berlin, une description plaisante de sa vie monotone de cet été. Je demeure maintenant chez mon amie Julie L., dans une petite propriété qu'elle a aux environs de Moscou. J'ai trouvé ma fille gaie et bien portante. Je ne sais laquelle de nous deux est la plus contente de cette réunion. Maintenant, nous ne nous séparerons plus, du moins pas pour longtemps, car je l'emmène cet automne à Stockholm. Elle aura tout à l'heure 6 ans, et c'est une fille très raisonnable pour son âge. On trouve en général qu'elle me ressemble beaucoup, et je crois aussi que je devais être à peu près comme elle dans mon enfance. Mon amie est très triste en ce moment, car elle vient de perdre sa sœur unique, avec laquelle elle était très liée. Aussi, notre maison est-elle très sombre et très tranquille. Notre entourage se compose presque exclusivement de vieilles dames, anciennes institutrices dans la famille, qui demeurent avec nous, et comme elles sont toutes en grand deuil, notre maison fait presque l'effet d'un couvent. Nous mangeons aussi beaucoup, comme dans les couvents, et 4 fois par jour nous prenons du thé, avec toutes sortes de bonbons, de gâteaux et de sucreries, ce qui nous aide beaucoup à passer le temps. J'ai essayé cependant de nous donner une petite distraction d'un autre genre. J'ai, par exemple, décidé Julie à venir seule avec moi, sans cocher, jusqu'au prochain village, lui assurant que je conduisais parfaitement. Nous sommes effectivement arrivés très heureusement jusqu'au lieu de notre destination. Mais en revenant, le cheval a pris peur, la voiture a heurté un tronc d'arbre, et nous sommes tombés dans un fossé. La pauvre Julie s'est fait mal aux pieds, et moi, la coupable, je suis sortie intacte de cette aventure. Un peu plus tard, elle écrivait à la même personne, « Notre vie ici est si uniforme que je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que je vous remercie pour votre lettre. Dans ces derniers temps, je n'ai jeté personne de voiture. Notre vie coule aussi calme que l'eau de l'étang qui orne notre jardin. Ma faculté de penser me semble également arrêtée. Je passe mes journées, un ouvrage à la main, sans penser à rien. À ce propos, il faut remarquer que, dans les intervalles de son travail, Sophie pouvait rester absolument oisive. Elle assurait souvent que jamais elle n'était plus heureuse que dans ces périodes de paresse absolue où se lever de son fauteuil lui semblait une fatigue. Un roman amusant, un ouvrage à l'aiguille, des cigarettes et du thé lui convenait alors mieux que tout. Cette faculté de réagir ainsi contre un travail cérébral trop absorbant et une continuelle excitation mentale était un bonheur, c'était le repos. Peut-être sa double origine russe et allemande prenait-elle alternativement l'ascendant et expliquait-elle ces brusques transformations de son être. Nos projets de voyage n'eurent pas de suite. Sophie resta tout l'été en Russie et nous ne nous revîmes qu'en septembre à Stockholm.